J'espère que oui. Si je vous dis les feuilles mortes se ramassent, petite A avec un râteau. Avec un gros sac, petit B avec un gros sac en plastique noir. Ou C, petit C, à la pelle. Charbon. Petit D avec un seau. Alors, quelle est la bonne réponse? Les feuilles mortes se ramassent comment? Personne? Vous voulez un joker? On peut téléphoner à quelqu'un? Ben je me date un peu, mais c'est vrai que les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Ça, c'est une fameuse chanson, un fameux poème de Prévert, mis en chanson et interprété par beaucoup de chanteurs dans les années 60. Tout ça pour dire qu'en fait, quand on veut mémoriser, il vaut mieux chanter. Et aujourd'hui, nous allons voir un chant qui est inspiré par Dieu. Dans le Deutéronome 32, nous allons lire et parler du cantique de Moïse. Moïse est connu comme l'auteur du Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, mais c'est aussi un compositeur de chants. C'est lui qui a écrit le cantique de l'Exode 15, qui célébrait la victoire de Dieu sur à travers la libération de l'Égypte. C'est lui qui a écrit le psaume 90, qui parle de la rapidité de la vie, de la brièveté de la vie. Et le Seigneur lui a inspiré, nous l'avons vu la semaine dernière dans Deutéronome 31, un autre chant. Le verset 19 dit, maintenant, dans le chapitre 31, maintenant écrivez ce cantique, enseigne-le aux Israélites, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les Israélites. Car je ferai entrer ce peuple dans le territoire que j'ai juré à ses pères de lui donner, et qui découle de lait et de miel. Il mangera, se rassasira et s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et leur rendra un culte, il m'outragera et rompra mon alliance. Quand alors de nombreux malheurs et des détresses l'atteindront, ce cantique, qui ne sera pas oublié de sa descendance, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et l'enseigna aux fils d'Israël. Et donc, ce n'était pas un chant de joie, comme le chant de l'Exode 15, mais c'était pour rappeler aux Israélites que c'était eux qui s'étaient éloignés de Dieu. Dieu, dans sa connaissance des choses avant qu'elles arrivent, savait que Israël allait se rebeller, se tourner vers d'autres dieux. Et ainsi rompre l'alliance avec l'Éternel. Ils allaient recevoir, récolter des malheurs, des détresses, Et le Seigneur savait qu'ils allaient dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse souffrir ainsi? Il voulait qu'en chantant ce chant, il se rappelle que si l'Éternel était loin de Dieu, s'ils étaient loin de l'Éternel, pardon, de Dieu, s'ils subissaient des tas de souffrances, c'était de leur faute. Et donc, nous allons regarder ce chant que Moïse a écrit, inspiré par l'Esprit Saint. Et il devait le chanter sans transparent. Quarante-trois versets. Et c'est vrai que nous, on a du mal à se rappeler quelques versets, bien souvent, s'il n'y a pas les paroles affichées. Encore une fois, le Deutéronome, c'est le serment d'adieu de Moïse au peuple d'Israël qui va entrer en terre promise. Mais il ne s'agit pas seulement d'étudier de l'histoire. Le Nouveau Testament nous apprend qu'en fait ces choses leur sont arrivées pour nous servir de leçon. Donc en étudiant ce cantique, ayons à l'idée que peut-être Dieu aussi s'adresse à nous. Chapitre 32, verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mon savoir se déverse comme la pluie, que ma parole coule comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez hommage à notre Dieu. Ici, on voit Dieu qui appelle à témoin la terre et les cieux. Et c'est souvent un procédé qu'on retrouve dans la Bible. C'est un peu comme si Dieu est en procès avec son peuple. Il prend à témoin la terre et les cieux. Ésaïe commençait son livre, le livre d'Ésaïe, verset 2, en disant « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Le prophète Michée, verset 2 du chapitre 6, dit « Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, immuable fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut contester avec Israël. » Et là déjà, on voit la justice parfaite de Dieu. Il appelle à témoins. Ce n'est pas un procès dictatorial. Ce n'est pas un tribunal d'exception. Il appelle des témoins à la barre. Et il continue en disant que ma parole coule comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Ça nous rappelle Ésaïe 55 où Dieu parle en disant « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Est-ce que vous vous sentez des fois un peu sec? Notre cœur est un peu en colère contre tout. Vous rouspétez à propos de tout. Vous n'êtes pas drôle à vivre. Est-ce que ça vous arrive des fois? J'en vois qui sourit. Ça m'arrive souvent, malheureusement. Ah oui. La parole de Dieu est comme la rosée. Comme des pluies légères sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Si l'état de votre esprit, c'est plutôt de la terre sèche et craquelée, la promesse de la parole de Dieu, c'est que si on se tourne vers la parole, alors au lieu de cette terre sèche et craquelée, alors on va commencer à germer des petites pousses d'herbe tendre. Il n'appartient qu'à nous de nous tourner vers la parole tous les jours. Tonio avait reçu comme cadeau d'anniversaire un petit bonsaï de la part de Sébastien. Et en fait, pendant l'été, le pauvre bonsaï a souffert. Et quand on est rentré en le prenant, les feuilles sont tombées. Et j'étais prêt, moi, à le mettre à la poubelle. Mais Nancy l'a mis dans la salle de bain. Et de temps en temps, elle le vaporise avec de l'eau. J'ai pensé, de l'eau sur un arbre mort, ça ne va rien donner. Et pourtant, au bout de quelques jours, on voit des toutes petites feuilles vertes qui commencent à venir. Il n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on dit. Mais la parole du Seigneur, elle est comme cette eau sur votre cœur. Elle vous rafraîchit. Elle vous transforme. Elle ne retourne pas à Dieu sans accomplir son effet. Moïse continue en disant « Je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez hommage à notre Dieu. » Verset 3. Paul nous avait rappelé que si nous sommes ici, ce n'est pas pour notre bonheur. Mais que tout ce qui se passe, en fait, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu nous a créés, c'est pour sa gloire. S'il veut, il veut que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Et ici, il est question de rendre hommage à notre Dieu. D'attribuer, de lui attribuer la grandeur qui lui appartient. Reconnaître qu'il est grand. Il est bon de tourner les yeux vers Dieu. Nous ne sommes pas le centre de l'univers. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des créatures. Il est Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 115, « Non pas à nous Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Et pour rendre hommage à Dieu, il continue en disant, verset 4, « Il est le rocher. Son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas lui, mais ses fils qui sont à blâmer, race perverse et retorse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-il pas celui qui t'a fait et qui t'a affermi? Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Un rocher, ça évoque l'idée de solidité. L'idée d'abri. Un gros rocher, on peut se cacher dessous. Jésus lui-même nous a expliqué qu'il fallait trouver la fondation du rocher pour construire. Si on construit notre vie sur du sable, à la première tempête, elle va être mise à bas. Il faut construire sur le rocher. Ce rocher, c'est Dieu. Paul nous dit que le rocher spirituel, c'était Jésus-Christ qui les suivait dans la traversée du désert. Les Proverbes nous parlent d'un petit mammifère. Qui s'appelle le Daman. Proverbe 10:30-26. C'est un petit mammifère herbivore qui a à peu près la taille d'une souris, qui est très faible, qui peut être attaqué par les rapaces et se faire avaler rapidement. Ce sont des animaux sans défense. Leur seul secours, leur seule solution, c'est de vivre dans le rocher, dans les rochers. Quelque part, la Bible veut nous dire que nous devons être comme ces petits animaux. Par nous-mêmes, nous n'avons aucune force. Mais si nous demeurons en Christ, alors là, nous sommes forts. Il est pas un rocher, il est le rocher. On verra plus loin que, parlant des idoles et des faux dieux, le chant parle des « leur roc n'est pas comme notre roc ». Their rock is not like our rock. Souvent, vous entendez dire, oh, vous êtes chrétien, vous. Vous avez la foi en Dieu. C'est parce que vous êtes faible. Vous avez besoin de béquilles. Que répondre à ce genre d'accusation? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis faible. Et toi, quel est ton rocher? Quelles sont tes béquilles? Tous les hommes ont un système de soutien. Un système de pensée, de philosophie, de croyance qui les aide à affronter la vie au quotidien. Mais lorsqu'il y a les tempêtes, est-ce que leurs béquilles tourneront, montreront qu'elles n'étaient en fait que du sable, ou est-ce que leur rocher est le nôtre? N'ayez pas honte d'admettre que vous êtes faible. Paul explique, c'est quand nous admettons, quand nous sommes faibles, que lui peut être fort à travers nous. Vous avez peur? Donnez-lui vos peurs. Êtes-vous inquiet? Donnez-lui vos inquiétudes. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite. Le mot parfait, c'est un mot que nous avons du mal à utiliser. Parce que pour nous, en tant qu'homme, en tant que créature, la perfection n'est qu'une aspiration. C'est un désir qui n'est jamais vraiment satisfait. Le temps aujourd'hui, c'est pas loin d'être parfait, on dira. Sauf si on a envie de pluie. Ou si on a envie de voir un peu le ciel gris, on en a assez du soleil qui bastonne. Le fait que nous ayons cette inspiration, ça nous rappelle que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais souvent, pour nous, la perfection a été corrompue en perfectionnisme. Et quelqu'un qui cherche la perfection, c'est quelqu'un qui est plutôt enquiquinant. On dit c'est un perfectionniste. Mais Jésus disait, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu est parfait. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il laisse arriver, c'est parfait. Est-ce que vous pensez à Dieu comme quelqu'un de parfait? Ou plutôt des fois à quelqu'un qui peut être parfait? Mais des fois, il néglige certains aspects de la vie ici-bas. Il est parfait, et il est parfait dans sa justice. Il est fidèle et sans injustice. Verset 4. C'est lui qui est juste et droit. Il est essentiel pour votre vie de réaliser que Dieu est parfaitement juste. Et ça, on ne peut pas le savoir par notre expérience. On peut le savoir seulement par la foi, par la révélation qui est faite ici et dans toute la Bible. Même dans l'Apocalypse, lorsque des malheurs arrivent pendant la grande tribulation, des choses horribles, on entend de l'autel dire « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Apocalypse 16, 7. Ces jugements sont justes. Et pourtant, on se dit, comment est-ce qu'il va juger les gens qui n'ont pas entendu parler de Christ ? Parce que l'enseignement de la Bible, c'est que si on n'a pas reçu le Christ dans son cœur, à ce moment-là, on est encore sous le coup de la colère divine. Et c'est une réplique qu'on entend presque toujours lorsqu'on parle de Dieu, mais comment vont faire ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ ? Et l'idée, c'est que Dieu ne devrait pas punir ces personnes. Quelle est la réponse ? Dieu est parfaitement juste. Je ne sais pas comment il va agir avec ces personnes. Mais une chose est certaine, ce sera parfaitement juste et justifié. Peut-être que dans sa connaissance en dehors du temps, il saura que ces personnes n'auraient jamais accepté son fils et il les punira. Je ne sais pas. Et des fois, on entend dire, comment est-ce que Dieu a pu permettre les camps de concentration ? Et lorsque une personne pose cette question, il y a une petite inférence subtile. En fait, moi qui vous parle, j'aurais pas agi comme lui. Et des fois, la conclusion, c'est que peut-être Dieu, en fait, se moque des hommes. Il n'a pas la puissance de changer les choses. Ou une combinaison des deux. Ce qui est intéressant, c'est que les versets suivants, 5 et 6, parlent justement de cette tendance à blâmer Dieu pour des choses dont il n'est pas responsable. S'ils se sont corrompus, les fils d'Israël, le peuple israélite, ce n'est pas lui, mais ses fils qui sont à blâmer. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable des malheurs du peuple juif ? C'est lui qui vous a fait, c'est lui qui vous a affermi, c'est pas lui qui est responsable de vos malheurs. Le monde tel que nous le voyons autour de nous n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé. Mais il est dans l'état qui résulte de la rébellion de l'homme. Même les catastrophes naturelles, on peut dire que Dieu est parfaitement juste. Amen. Il va rappeler maintenant les bienfaits de Dieu vis-à-vis d'Israël, versets 7 à 14. Souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années de génération en génération, verset 7. Interroge ton père, il te l'annoncera, tes anciens, ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les uns des autres les fils d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Car le partage de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob et sa part d'héritage. Verset 7 à 9. Le verset 8 n'est pas un verset facile à interpréter. Il y a des textes qui disent qu'il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils du ciel, donc des anges. Mais quelque part, ce verset nous dit que lorsqu'il a réparti les hommes à la surface de la terre, il a pris en compte les nombres des fils d'Israël pour fixer les limites des territoires et des peuples. Donc, c'est un verset qui n'est pas facile à comprendre complètement. Mais je crois qu'il réaffirme la centralité du peuple d'Israël, du territoire d'Israël dans l'histoire mondiale. Il suffit de regarder la télé, d'entendre, de lire les médias, de lire les journaux. Pour réaliser qu'Israël est toujours au cœur de l'histoire du monde. Il est dit que Israël, c'est son héritage. Paul, dans Éphésiens 1,18, dit que parle de la glorieuse richesse de l'héritage qu'il a dans la personne des saints. Et on peut prendre ça, en fait, son héritage, c'est les saints, c'est les personnes qui vont venir à sa connaissance. Autrement dit, Dieu considérait le peuple d'Israël, Dieu considère l'Église comme un trésor. Dieu s'intéresse aux hommes, aux femmes. Nous nous intéressons souvent aux choses matérielles. Le système économique s'intéresse aux résultats des entreprises, aux actionnaires. Dieu a mis tellement de valeur dans chaque homme, chaque femme. Que s'il avait fallu, je crois qu'il serait mort pour chacun d'entre nous individuellement, si nous avions été seuls sur la terre. Et ce trésor qu'il avait trouvé dans un pays désert, verset 10, il en prenait soin, il le gardait comme la prunelle de son œil. Zacharie, le prophète, disait que celui qui touche à Israël touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Nous sommes son peuple, l'Église, et s'il nous touche, c'est comme si on touchait la prunelle de l'œil de Dieu. Si vous essayez de mettre des verres de contact, vous savez que c'est très douloureux d'avoir le doigt dans l'œil. Tel point que notre corps est fait de telle sorte que le réflexe le plus rapide de tout le corps humain, c'est le réflexe de protection de la prunelle de de nos yeux. Je n'ai pas essayé avec la montre, mais il paraît que c'est un millième de seconde qu'on ferme l'œil pour le protéger. Et donc, ça veut dire que Dieu est attentif. il va réagir au moins par la connaissance de la situation instantanément. Peut-être que sa réponse à la situation va prendre du temps à nos yeux. Mais il nous regarde avec autant d'affection, de protection que si nous étions la prunelle de son œil. Verset 11, il dit qu'il est pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, qui voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Cet été, avec Élise, nous avons eu le privilège de pouvoir voir nous approcher d'aigles, de très proches. On n'a pas vu la façon dont les mamans aigles apprennent à voler à leurs petits. Mais ils sont bien confortables dans leur nid. La maman va chercher de la nourriture. En principe, il n'y a qu'un petit ou deux au maximum. Et pendant des semaines, ils se gavent. Assez confortables. Ils sont bien au chaud. Mais on me dit que les nids sont faits de telle façon que les branches dépassent à l'intérieur du nid. Donc plus ils prennent du poids et moins c'est confortable. Et puis la maman arrive. Elle leur dit, je sais que je vais faire quelque chose, tu ne vas pas comprendre. Mais c'est pour ton bien. Sache que je t'aime. Et donc, elle éveille sa nichée, elle voltige sur ses petits. Et apparemment, elle leur donne un coup de bec. Et le petit oisillon bien, bien gras commence à tomber. Elle se dit, mais elle a perdu la tête, la maman, là. Il voit les rochers qui arrivent en bas. Il se dit, c'était trop bien pour durer, je savais. Et au dernier moment, l'aigle les rattrape, passe dessous, les fait atterrir sur ses ailes. Et il se remet de ses émotions. Se retrouve dans le nid et dit à sa maman, mais ça va pas la tête, non? Elle le laisse se reposer. Et le lendemain, elle dit, je t'aime, je vais faire quelque chose, tu vas pas comprendre. Oh! Et pof, un coup de tête, il tombe, elle le ramasse au dernier moment. Jusqu'au jour où il en a marre de tomber comme une pierre. Et il essaye de battre de ses ailes. Et là, il voit qu'il a un certain contrôle sur la chute libre. Et ainsi de suite. Et en quelques jours, en quelques semaines, il est capable de voler. Et c'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous. Peut-être que vous trouvez bien où vous êtes. C'est confortable. C'est peut-être pas génial. Mais il y a à manger, vous connaissez les lieux. Puis du jour au lendemain, le Seigneur vous dit, je vais faire quelque chose, tu vas pas comprendre. Mais sache que je t'aime. Peut-être que vous allez vous retrouver avec le talon cassé, avec une maladie grave. Le Seigneur, au dernier moment, va vous récupérer. Il va dire, je t'aime. Tu ne comprends pas, mais je veux t'apprendre à voler. Nous, si ça tenait qu'à nous, on voudrait la faciliter tout le temps. Mais Dieu est comme un aigle qui éveille sa nichée, qui déploie ses ailes, qui nous porte sur ses plumes. Donc les versets 12 à 13 à 14 rappellent toute la richesse matérielle qu'il y avait en Israël. Mais les versets 15 à 18 nous parlent de l'ingratitude d'Israël. Yeshurun, verset 15, est devenu gras et il s'est regimbé. Tu es devenu gras, éplé et replé. Il a délaissé Dieu son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Verset 15. Yeshurun, c'est un terme affectueux qu'on trouve dans la Bible pour désigner Israël. C'est la même racine que Yasser, comme Yasser Arafat. Ça veut dire celui qui est juste, celui qui est droit. Mais c'est presque une ironie, parce que celui qui était juste est devenu gras, il s'est regimbé, c'est un vieux mot, ça veut dire il a rué dans les brancards, il n'a pas accepté le joug que Dieu lui mettait sur le dos. Et ça nous rappelle le danger de la prospérité. Quand les choses vont mal, qu'on a un mauvais rapport du docteur, alors là, on se met à prier dur. Mais s'il n'y a pas de crise présente, alors on a tendance à se relâcher. Et à dédaigner le rocher. Verset 16, « Ils excitent sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'irritent par d'horribles pratiques, ils sacrifient à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent pas, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas vénérés. » Est-ce que nous aussi, nous avons abandonné le rocher de notre salut pour nous tourner vers des idoles? Souvent, les gens disent, l'important, c'est d'être sincère. D'accord, il est bouddhiste, mais il est tellement sincère. Ici, il est dit que sacrifier à des idoles, c'est sacrifier à des démons. On ne peut pas dire que ce n'est pas grave. La sincérité, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la vérité de la personne qu'on adore. Il faut adorer le vrai Dieu. Le rocher qui est parfaitement juste. Le verset suivant parle de la colère de l'Éternel qui se réveille contre Israël, le châtiment qu'ils vont recevoir. L'Éternel, verset 19, l'a vu et il a ressenti du mépris parce que ses fils et ses filles l'irritaient. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quel sera leur avenir, car c'est une génération versatile. Ce sont des fils auxquels on ne peut se fier. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée, car le feu de ma colère s'est allumé. Et il brûle jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévore la terre et ses productions. Il embrase les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les malheurs. J'épuiserai mes flèches contre eux. Ils seront exténués par la famine, rongés par la fièvre et par une contagion amère. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes et le venin des reptiles. Au dehors, l'épée les privera d'enfants et au dedans, la terreur. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, du nourrisson comme du vieillard aux cheveux blancs. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Pardon. Et on peut penser qu'en fait les versets 22 à 25, c'est une description prophétique du génocide hitlérien. Et pourquoi est-ce que Dieu a permis les camps de concentration? Je vous suggère que c'est peut-être parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Dieu voulait qu'ils connaissent cette chanson, ce cantique. Pour se rappeler que c'était la conséquence de leur idolâtrie. C'est terrible à dire, mais c'est ce que semble indiquer la raison de ce chant. Mais les versets suivants vont nous montrer le triomphe de la grâce de Dieu. Il dit, je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leurs souvenirs d'entre les hommes. Ils ont rompu l'alliance, ils se sont tournés vers d'autres dieux, Dieu n'en peut plus, il aimerait les oublier. Mais verset 26, si je ne redoutais les insultes de l'ennemi, je crains que l'adversaire ne se méprenne et qu'il dise, notre main est puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait tout cela. Et donc Dieu se dit, si je laisse les peuples hostiles à Israël les exterminer complètement, eux veulent se glorifier de leur force, de leur puissance. Ils ne vont pas me reconnaître non plus. Et si Israël a déçu Dieu, Dieu a toujours en horreur ceux qui ne croient qu'à des idoles, ceux qui ne croient pas en Dieu. Au passage, lorsqu'il dit qu'il va se tourner vers une nation qui n'est pas une nation, c'est notre chance, à nous qui ne sommes pas juifs. Il va exciter leur jalousie, comme l'explique Paul dans Romains 11. En nous acceptant, nous qui n'étions pas initialement son peuple, nous pouvons remercier Dieu de cela. Ça a toujours été le plan de Dieu. Il voulait que Israël partage la bénédiction de connaître un sauveur avec le monde entier. Verset 35, à moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et leur destin se précipite. Il y avait un petit... dans les États-Unis du 19e siècle, il y avait un prédicateur qui s'appelait Jonathan Edwards. C'était un homme qui avait de grosses lunettes, il n'avait pas du charisme naturel, il était tellement myope qu'il devait lire son texte sous les yeux. Et à partir de ce verset 35, au temps où leur pied chancellera, il a lu ce sermon qu'il avait écrit qui s'appelle « Pécheur dans la main d'un Dieu en colère ». Il disait qu'un pécheur est comme un homme qui marcherait sur une plante recouverte de verglas. Et qu'à tout moment, il pouvait tomber dans le feu de l'enfer, dans le brasier de l'enfer. Le Saint-Esprit a utilisé ces versets, ces paroles, on explique que les gens étaient tellement touchés par ce message qu'ils commençaient à pleurer. Ils s'accrochaient aux piliers de l'église pour ne pas, par peur de tomber dans ce feu d'enfer. Ils venaient se convertir à Christ en grand nombre. C'était l'origine de ce qu'on a appelé le grand réveil en Amérique. À partir de ce verset 35, à moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et leur destin se précipite. Ensuite, Dieu fait de l'ironie en disant, où sont leurs dieux qui leur servaient de rocher, qui viennent les aider dans ces temps de malheur? Le verset 39 parle de la souveraineté de Dieu. Maintenant donc, voyez que c'est moi seul qui suis Dieu, qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Dieu est souverain. Il a toute puissance pour faire ce qu'il veut. Il fait vivre, il fait mourir, il blesse, il guérit. C'est un Dieu parfaitement juste et c'est un Dieu d'amour. Et il dit qu'il n'y a point d'autre Dieu près de lui. Vous savez que les témoins de Jéhovah traduisent le premier verset de l'évangile de Jean en disant « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était petit dé Dieu, un petit Dieu. » Vous pouvez leur citer ce verset 39. Il n'y a point de petit Dieu à côté de Dieu. Et ça les perturbe beaucoup. Et le but, ce n'est pas de les perturber, le but, c'est de les amener à la connaissance de Christ. Verset 40, je lève la main vers le ciel et je dis, moi je suis vivant pour l'éternité. Nation acclamée son peuple, verset 43, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il tire vengeance de ses adversaires, il fait l'expiation pour son sol, pour son peuple. Après avoir terminé de lire ce chant, ou de le chanter probablement, Moïse leur dit, prenez à cœur, verset 46, toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de commander à vos fils, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas pour vous une parole creuse, c'est votre vie. Obéir, c'est une question de vie ou de mort. Dieu est notre rocher, il est le rocher de notre salut. Cette expression rocher, rocher de mon salut, ça se trouve au moins une dizaine de fois dans toute la Bible. Et ça termine donc ce chant de Moïse qui va maintenant pouvoir monter sur la montagne et mourir, voir de loin la terre promise. Comme on l'expliquait la semaine dernière, la loi représentée par Moïse ne pouvait pas les emmener dans la terre de victoire, de la terre promise. Il fallait que Josué, un symbole, une préfiguration de Jésus, c'est le même nom, les mène par la grâce en terre promise. Nous allons maintenant célébrer la Sainte Cène qui rappelle justement cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui ne dépend plus de notre fidélité, mais qui dépend entièrement de la fidélité de Dieu. L'histoire du peuple de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël, elle est destinée à nous montrer que nous ne pouvons pas par nous-mêmes suivre les 10 commandements. Nous devons faire tous nos efforts pour obéir à la loi. La loi est parfaite. Mais par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Nous sommes faibles. Amen. Nous avons besoin d'être dans le rocher, sur le rocher. Nous allons chanter ce chant. Tu es le rocher de mon salut. J'ai demandé à Paul et Sébastien de vouloir passer les emblèmes. Si Tonio et Mike, si tu veux guider dans ce chant. Nous allons prendre un temps de prière avant de distribuer.